5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce mardi 5 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin,
ce
Céline.
Ce bilan très lourd cette nuit à Paris et que pourrait encore évoluer. Au moins 7 personnes sont mortes dans un incendie toujours en cours qui a pris dans un immeuble de 8 étages dans le 16e arrondissement. Nous serons en direct sur place dès le début de ce journal. Un grand plan pour aider les petites associations annoncé hier soir d'Emmanuel Macron lors d'un échange de 6 heures à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Et puis l'affaire Benalla, une troublante perquisition dans les bureaux de Mediapart, les journalistes qui étaient dans leurs droits ont refusé de s'y soumettre.
Europe 1.
Un bilan, je vous le disais, déjà très lourd ce matin dans le 16e arrondissement de Paris. L'incendie d'un immeuble de 8 étages a fait au moins 7 morts, 28 blessés, dont une personne en urgence absolue. Aude Vernuccio, vous êtes sur place pour Europe 1 depuis 2 heures maintenant. L'incendie est toujours en cours.
Oui, sur place, 200 pompiers luttent toujours contre les flammes au moment où je vous parle. La scène a été particulièrement violente à leur arrivée. L'immeuble entier s'est embrasé vers 1h du matin. Un bâtiment de 8 étages, assez récent, situé juste à côté d'une école. Très vite, les habitants se sont réfugiés sur les balcons, certains sur le toit, ce qui a permis à la brigade d'évacuer une trentaine de personnes via des échelles. Deux immeubles voisins ont aussi été évacués par précaution. L'intervention est très délicate, notamment au 8e étage où le feu est encore virulent. J'ai vu il y a quelques instants ce pompier éreinté à l'uniforme noirci porté à bout de bras par ses collègues. Trois soldats du feu figurent d'ailleurs parmi les blessés et le bilan pourrait encore s'alourdir d'après un porte-parole. Des missions de reconnaissance sont toujours en cours, appartement par appartement. Une enquête est également ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.
Merci Aude Vernuccio en direct ce matin donc depuis le lieu de cet incendie à Paris dans le 16e arrondissement qui, je vous le rappelle, a fait au moins 7 morts, 28 blessés dont 3 pompiers. On vous tient évidemment informé de l'évolution de la situation.
Emmanuel Macron était à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne hier soir dans le cadre du grand débat.
Oui, le chef de l'État a échangé pendant 6 heures dans la salle municipale qui réunissait 300 maires et des responsables d'associations. D'ailleurs, le chef de l'État à cette occasion a annoncé un grand plan pour aider les petites associations. Il a aussi reconnu que la suppression des emplois aidés avait posé un vrai problème pour beaucoup de villes. Le maire de Courcouronnes, Stéphane Baudet, d'Hiver Droite, a estimé qu'Emmanuel Macron avait été à l'écoute de questions très techniques et précises. Les propositions, dit-il, viendront après.
Bien sûr qu'on a parlé banlieue et bien sûr que c'est très technique, mais qu'est-ce qui est technique? Une association qui se lève et qui explique les difficultés techniques qu'elle a à avoir un salaire, à maintenir un emploi, être obligée de mettre de sa poche pour avancer des dotations de l'État qui arrivent au mois de juillet au lieu d'arriver le 1er janvier. Oui, ça a des abords techniques, mais c'est de la vie quotidienne et ça a été beaucoup dit. Gérer une association aujourd'hui, c'est devenu technique. Si le président de la République vient avec des mesures concrètes à une réunion où il vient écouter l'expression du terrain, on dira qu'il se fout de nous. Donc on va pas lui demander d'avoir des solutions concrètes ce soir. Il a été très à l'écoute, il a découvert des sujets, il l'a fait, je trouve, avec beaucoup d'écoute et beaucoup d'humilité. La question des propositions qu'il fera, ça viendra après et nous jugerons sur ce qu'il fera. Mais ce soir, il a été à l'écoute et il a le bagage pour pouvoir prendre des orientations.
Stéphane Baudet avec Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. 200 à 300 personnes ont bloqué cette nuit l'une des quatre entrées du marché de Rungis en région parisienne. Des groupes composés de quelques gilets jaunes et de manifestants munis de drapeaux de la CGT. La CGT qui appelle à une grève générale aujourd'hui. Des perturbations sont à prévoir pour certains trajets intercités, Bordeaux-Marseille ou encore Paris-Toulouse. Un appel à cesser le travail est aussi lancé par les syndicats d'infirmiers libéraux et à la Poste aussi. Le courrier pourrait ne pas quitter les dépôts. Un préavis de 24 heures a été déposé notamment pour réclamer une augmentation des salaires. Notez enfin que les activités périscolaires pourraient aussi être perturbé.
Europe 1, il est 6h03.
Un nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla.
Oui, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée sur les conditions d'enregistrement d'une conversation entre Alexandre Benalla et un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Vincent Crase. C'est Mediapart qui a diffusé l'enregistrement. Et donc hier, deux magistrats du parquet de Paris et trois enquêteurs se sont présentés dans les locaux du site pour se faire remettre cette bande audio, ce que Mediapart a refusé dans son droit. Pierre de Cossette.
Cela fait 7 mois qu'au 6e étage de la PJ parisienne, des enquêteurs travaillent sur l'affaire Benalla. Ils la connaissent sur le bout des doigts. Et pourtant hier, ce sont leurs collègues à l'autre bout du couloir, ceux de la brigade criminelle, eux-mêmes très surpris, qui ont été désignés pour perquisitionner Mediapart. Mais alors pourquoi diable la crime ? Qu'y a-t-il de si sensible ? Le parquet de Paris reste évasif et parle d'éléments qui lui sont parvenus et justifie une enquête pour violation de la vie privée, alors qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase n'ont pas déposé plainte, et pour l'enregistrement clandestin de leur conversation. Même s'il n'a semble-t-il jamais été question d'aller retourner les bureaux de Mediapart, le site d'information interprète cette visite surprise comme une volonté d'identifier des sources de journalistes par un procureur aux ordres, fraîchement nommé par le président Macron. À Mediapart, comme un pied de nez, on s'est fait fort hier de remettre les bandes audio, non pas aux policiers de la brigade criminelle, pour le procureur, mais aux enquêteurs qui, depuis juillet dernier, planchent sur les violences de la contrescarpe, sous la houlette d'une juge d'instruction indépendante et qui avait interdit à Benalla et Kras de se parler. Des enregistrements qui n'ont aucune vocation à transiter d'un service à l'autre.
Pierre de Cossette pour Europe 1. Jonathan Daval a confirmé ses aveux. Selon nos confrères de l'Est républicain, le mari d'Alexia a été réentendu en toute discrétion par un nouveau juge d'instruction il y a quelques jours. Il maintient avoir tué son épouse, mais il nie toujours avoir participé à la crémation du corps. Et puis, je vous rappelle donc l'information de cette nuit. Un incendie toujours en cours à Paris, dans le 16e arrondissement, rue Erlanger, dans un immeuble d'habitation de 8 étages. Les deux derniers étages sont toujours en feu, au moins 7 morts, 28 blessés, plus de 200 pompiers mobilisés. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann.
Europe 1.
À suivre, c'est historique. Donald Trump prononcera ce soir son discours sur l'état de l'Union. À quand remonte cette tradition et que nous dit-elle du système politique américain ? Fabrice Dalméda nous raconte.
Il est 6h05. Il est 6h07, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur le temps du jour.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine.
Céline, le temps c'est avec vous et encore du soleil pour l'est du pays aujourd'hui.
Oui, il brillera largement d'ailleurs de l'Alsace, Bourgogne jusqu'au pourtour méditerranéen et en Corse. Ailleurs, c'est la grisaille qui va dominer avec des averses de la Bretagne à l'Aquitaine toute la journée. Encore un petit peu de neige ce matin sur le relief pyrénéen, mais c'est les éclaircies qui reviendront sur ce secteur dans l'après-midi. Quant aux températures, elles grimpent un peu. On est dans les normales de saison. La moyenne cet après-midi dira de 6 à 14 degrés du nord au sud. Il en fera 8 à Paris.
Merci Céline. Et Farok, c'est une journée particulière
mais
pour
oui.
vous, je crois.
Pas pour moi. Non, je ne suis pas très fan. C'est la journée mondiale de cette pâte à tartiner là, qu'il vaut mieux éviter parce que ça tombe directement sur les hanches.
D'accord.
Voyez, justement, on a demandé aux auditeurs depuis 5 heures ce matin.
Pâte à tartiner à la noisette.
Oui, exactement. Quel est votre kiff alimentaire un petit peu honteux, en tout cas non avouable? Eh bien, vous nous avez répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Philippe, il mange 500 grammes de boules pralinées. Je ne sais pas, mais pourquoi 500 grammes? Ça fait beaucoup. Mixerie nous dit un truc à la vanille glacée où l'on jette des miettes de bonbons à l'intérieur avec un nappage caramel. Pareil, c'est aussi sur les hanches, vous voyez de quoi on parle. Et puis Jean-Seb, il nous dit rien de bien honteux, mais prêt à tout quand il y a à proximité des marrons glacés. Vous êtes plusieurs à nous dire d'ailleurs, les marrons glacés ou la crème de marron. Je sais pas pourquoi, mais je trouve pas ça très très bon. Enfin,
non
bon.
Plus.
Et Gecko, il dit on peut faire soi-même.
Qu'est-ce que vous venez de dire que les marrons glacés c'était pas bon?
J'aime pas trop ça. Non, j'ai dit que je n'aimais pas trop ça. J'ai pas
d'accord,
dit que c'était pas bon.
Précisez-le parce que moi les marrons glacés j'adore ça.
Et Gecko nous précise qu'on peut faire soi-même une pâte à tartiner minute, plus saine. Alors plus saine, je suis pas sûre. On mélange du chocolat pâtissier fondu à un pot de crème dont le nom commence comme Dani et fini comme honnête. Voilà, je suis pas sûre que ce soit très bon non
d'accord,
plus.
D'accord, pas mal, ouais. Moi, vous avez mon péché mignon.
Allez-y.
Les cookies de la femme de Jérôme Lacroix.
C'est vrai. Non, mais c'est avouable, largement avouable.
C'est avouable.
D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé.
C'est vrai, on lance, ça, le message est lancé, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de cookies de Madame Lacroix, si elle nous écoute. Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Justement, quand Jérôme Lacroix pénètre dans ce studio, c'est qu'il est temps de passer au journal des sports. Un moment que ne raterait pour rien au monde un ancien président de la République féru de sport, François Hollande. N'est-ce pas, monsieur le président?
Parce que, en définitive, le sport, c'est une histoire qu'il faut raconter.
Oui.
C'est pas simplement des matchs que l'on découvre.
Effectivement.
C'est, en définitive, des feuilletons qui se passent sous nos yeux et peuvent connaître des gloires, puis après des déclins, puis ensuite des résurgences.
Oui. Mais on n'a pas le temps, monsieur le président. Allez, Jérôme Lacroix, journal des sports.
Vous avez réveillé tous les auditeurs en hurlant.
C'est
là.
Vrai, là j'ai réveillé tout le monde. Et même moi-même, je me suis réveillé, je vais vous dire. À la une, nouveau crash test pour Rudy Garcia.
De son propre aveu, l'entraîneur des footballeurs de l'OM vit le moment le plus difficile de sa carrière à la tête d'une équipe encalminée à la 10e place du classement de la Ligue 1. Une seule victoire lors des 12 derniers matchs. Alors ce soir, réception de Bordeaux au Vélodrome, match en retard de la 18e journée de Ligue 1. C'est le match de la peur, titre ce matin le journal La Provence, un contexte qui bien sûr s'accompagne de flopées d'interrogations sur l'avenir à son poste de l'entraîneur. Rudy Garcia, lui, garde son cap.
C'est vrai que c'est une saison difficile, il reste suffisamment de matchs pour remonter au classement, il n'y a que ça qui m'anime, moi le reste franchement c'est de la littérature, moi je suis là, je donne le meilleur de moi-même et j'ai pas encore fini de le donner, mais le projet ne s'arrête pas non plus à cette saison, voilà, il y a encore plein de belles choses à faire ici, mais en tous les cas le projet continue. Et Et moi, je suis à fond dedans.
Des propos recueillis par Yann Terrault. Alors, ce qui est sûr, c'est que licencier Rudy Garcia, ça coûterait cher. Hein, au moins 10 millions d'euros parce que son contrat a été récemment prolongé. C'était en octobre. Marseille-Bordeaux, coup d'envoi 19h dans un vélodrome sans spectateurs. Huis clos total. Sanction de la commission de discipline de la Ligue après des incidents il y a 10 jours face à Lille.
Également aujourd'hui, et là je ne vous cache pas mon excitation, des débuts des huitièmes de finale de la Coupe de France.
18h30, Metz-Orléans, Nantes-Toulouse, ainsi que les Dijonais en déplacement chez les nordistes de Croix, 4e division. Ça,
Dijon-Croix.
Et puis à 21h, non c'est Croix-Dijon. Et puis à 21h, Bastia, désormais en 5e division, plus petit niveau encore représenté, recevra Caen, équipe de Ligue 1.
C'est le point d'orgue cette année de la saison de ski. Coup d'envoi aujourd'hui des mondiaux en Suède.
À Orée, ça dure 2 semaines. Première épreuve aujourd'hui, 12h30, le Super G Dames avec notamment Tessa Worley. Côté messieurs, les chances de médailles sont incarnées par Alexis Pinturo et bien sûr Clément Noël, le slalomeur, le tube du moment. À peine 21 ans et il a récemment obtenu 2 victoires en Coupe du Monde. Fabien Saguez, directeur technique national, optimiste pour le jeune Vosgien à l'aube de cette grande aventure.
Ça sera aussi, quoi qu'il arrive, pour Clément, une situation nouvelle. Parce que mine de rien, les championnats du monde, c'est la première fois auquel il va y participer. Et en plus, avec une étiquette de vrai outsider, je dirais pas de favori parce que ça serait exagéré, mais en tout cas d'outsider potentiel pour une médaille.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Et le grand moment pour Clément Noël, ce sera donc le slalom dimanche de la semaine prochaine, le 17, dernier jour de compétition.
J'embrasse mon frérot. L'histoire du jour, Jérôme.
Vous entendez, voilà, Neymar sur scène, au micro, aux côtés de ses coéquipiers. Dani Alves et Kylian Mbappé qui dansent. Voilà, c'était grosse soirée hier soir au pavillon Gabriel dans le 8e arrondissement de Paris. Fête d'anniversaire de Neymar, 27 ans. Alors, outre les joueurs et le staff du PSG, étaient notamment présents Cathy Guetta, Bob Sinclair. Le dress code, c'était tous en rouge. Et Neymar qui est blessé, rappelons-le. Même ses béquilles étaient rouges. Voilà.
Magnifique. Vous avez encore des paillatures. Vous êtes venu directement.
En revanche, pour la qualité de la chanson ou de l'interprétation. Oui.
J'avoue que je ne sais
pas. Mais toujours. Mais vous savez que moi, je n'aime pas ça, le mauvais esprit, Eva.
Pardon.
Vraiment, ce n'est pas mon fond de commerce. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, il nous a rejoint. Il est agrégé d'histoire, mais il aurait pu tout aussi bien enflammer le théâtre de la Michaudière. À l'heure où de nombreux comiques sont épingués pour plagiat, lui, il est le seul humoriste à pouvoir faire s'écrouler de rire une salle entière avant même sa première vanne, juste sur son bonjour. Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Le pape... Stupéfiante nature comique de Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda, attention.
Bonjour à tous.
Magnifique. Donald Trump prononça ce soir son discours sur l'état de l'Union, sorte de discours de politique générale. C'est une tradition ancienne que ce message aux deux chambres réunies.
Bah oui, c'est un droit constitutionnel du président et il a été utilisé dès le départ par George Washington, l'ancien commandant en chef élu premier président des États-Unis. C'était le 8 janvier 1790. Le Congrès se tenait à New York, car à l'époque, New York était la capitale. George Washington, donc, informe les gentlemen du Sénat et de la Chambre des représentants, je cite, sur l'état de l'Union. Il rappelle la nécessité d'unifier les poids et mesures, de soutenir l'éducation et les sciences, et il suggère la création d'une armée permanente en reprenant le vieil adage de César, si tu veux la paix, prépare la guerre. Le tout a duré 10 minutes, ça reste le record du discours le plus court. Son expression sur l'état de l'Union a servi de titre plus tard au discours de Franklin Delano Roosevelt en 1934 et depuis, on parle de discours sur l'état de l'Union dans les médias au lieu de la notion constitutionnelle de message à la Chambre.
Et ce discours a toujours eu lieu ?
Non. Non. Pendant un siècle, entre 1801 et 1913, les présidents ont préféré transmettre un message écrit qui était lu par un des fonctionnaires au Congrès pour ne pas se donner des allures trop monarchiques royales.
Et Donald Trump a dû reporter son discours à cause du shutdown, on en a parlé. Est-ce que cette situation s'est déjà produite ?
Jusqu'à Trump, il n'y avait eu qu'un seul report recensé. C'était en 1986. Ronald Reagan avait prévu de parler le 28 janvier, comme toujours à l'invitation du président de la Chambre, celui qu'on appelle le speaker, mais l'explosion de la navette spatiale Challenger a suscité une telle émotion qu'il a repoussé d'une semaine son intervention afin de respecter un jour de deuil. Le report de Trump, pour motif budgétaire, est donc exceptionnel, historique.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1. Il est 6h15, Mathieu Noël.
Ah, parfait, vous avez changé, vous avez dit 15 pour ne pas dire écart, pour ne pas qu'il y ait de répétition. C'est ça le plus, Céline Dacosta. Debout les copains, continue. 2 heures d'infos, de rire et d'aventure. À l'occasion de l'avant-première ce soir du film Arctique, l'histoire d'un homme bloqué au pôle Nord qui cherche à survivre par moins 70 degrés, nous recevrons le seul aventurier capable de nous expliquer comment on survit par moins 70 degrés vu qu'il l'a fait.
Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos.
Vous l'avez reconnu, le médecin explorateur Jean-Louis Etienne sera notre invité à 6h20. Juste avant cela, Eva, une chanson de M que je vous dédie. Super chérie sur Europe 1. Super chérie, c'était M sur Europe 1.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'infos, d'insouciance guirette, mais aussi de questionnements profonds. Comme à 6h20 avec notre invité, ce matin on parlera d'un thème qui nous concerne tous.
On parle de la ménopause là, ça va pas tarder, hein. En avril.
Ah, c'est en avril, c'est pas dans quelques jours.
Non, à la ménopause. Ce thème qui nous concerne tous, c'est le réchauffement climatique. Un film sur l'Arctique sort demain, l'occasion pour nous de recevoir un explorateur qui connaît le pôle Nord comme sa poche et qui a vu de ses yeux l'impact du réchauffement sur la banquise. Jean-Louis Etienne sera avec nous dans un instant.
Il est 6h19. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Terrible incendie cette nuit à Paris, le feu est maîtrisé, nous indique notre reporter Aude Vernuccio sur place. Au moins 7 personnes sont mortes et une autre est grièvement blessée, 24 personnes légèrement touchées. Le feu a pris dans un immeuble de 8 étages rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de la capitale. Journée de grève et de manifestation à l'appel de la CGT aujourd'hui, objectif répondre à l'urgence sociale. À Paris, rassemblement à 14h devant l'hôtel de ville pour se rendre place de la Concorde dans le 8e. Enfin, les députés votent aujourd'hui en première lecture la proposition de loi dite anti-casseurs. Des élus de La République En Marche voteront contre ou s'abstiendront.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mardi 5 février. L'actualité, c'est aussi la projection ce soir de l'avant-première du film Arctic, réalisé par Joe Peña avec Matt Mikkelsen. L'histoire d'un survivant d'un accident d'avion qui se retrouve bloqué en Arctique et qui doit survivre dans ce désert glacé. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Vous êtes médecin, explorateur, écrivain. Vous êtes le premier à avoir rejoint le pôle Nord en solitaire en 86 après 63 jours de marche. Vous avez également traversé l'Arctique à bord d'un ballon. De quoi a-t-on le plus peur quand on traverse un territoire glacé où il fait moins 70 degrés ? Moi, perso, j'aurais peur de tout, mais quels sont les principaux risques quand même de ces conditions extrêmes ?
Alors, ce que je risquais, moi, d'aller au pôle Nord, je peux vous parler de ce que j'ai connu. C'est, le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc, on marche sur la mer gelée. Il y a des endroits où la mer vient de se regeler parce que ça travaille sans arrêt. Il y a une dérive de la banquise, ça bouge, ça se casse, ça se regèle. Et vous passez sur la glace fine.
Ah, donc on risque de tomber dans l'eau.
Vous passez sur la glace fine, vous passez à travers, vous êtes mort.
Ah, carrément, il n'y a pas d'échappée. Vous n'avez pas un petit matériel pour vous accrocher
Non, parce que ça arrive vite, si vous voulez. Quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, on est mort parce que ça veut dire que tout s'effrite et vous essayez de vous remonter sur une glace
autour.
Qui se casse autour. Ça, c'est le premier risque, il est grave. Et la deuxième, c'est la rencontre avec un ours.
Ah oui, c'est vrai que c'est sympathique.
Ça, moi, je n'avais pas d'arme, donc je n'ai jamais vu d'ours en vrai. J'ai vu des traces fraîches. Un matin, après 48 heures de blizzard, donc ça veut dire que tout avait été recouvert par la neige, et à peu près une heure de marche de ma tente, je vois des traces de quelqu'un qui devait chausser du 95. Et là, j'ai dit, il est là. Et donc,
il y avait des probabilités que ce
soit
un ours.
J'ai eu peur parce que je n'avais pas d'armes, et donc j'ai fait... C'est marrant, dans ces cas-là, j'ai mis le capuchon et je suis entré en empathie en me disant « Je ne suis qu'un pèlerin, laissez-moi passer. » Je me souviens de ça dans ce moment de panique.
En espérant que ça aura un impact sur le comportement de l'ours.
Je ne l'ai jamais vu.
Dans le héros de ce film donc, qui sort demain, Arctic, le héros est sans cesse confronté à un dilemme, rester à l'abri dans la carcasse de l'avion ou partir dans le froid pour trouver du renfort. Qu'est-ce que vous ferez à sa place?
Moi, je reste dans la carcasse de l'avion.
Ah, d'accord. Ah ben, au moins, on verra s'il fait ça dans le film.
Oui, parce que c'est mieux de... On peut se faire repérer. Puis si vous avez une carcasse de l'avion, vous pouvez déjà vous mettre à l'abri du vent, si vous voulez, c'est déjà quand même mieux, et avoir plus de chances d'être repéré.
Vous nous parliez de cette anecdote avec l'ours, que vous n'avez finalement pas vu, mais qui rôdait pas loin de vous. Quand on évoque votre nom, Jean-Louis Etienne, on pense immédiatement, bon, aventure polaire, paysage splendide, mais est-ce que certaines de vos expéditions ont déjà mal tourné? Est-ce que vous êtes déjà fait peur?
Fait peur en Himalaya.
Ah oui.
Pas forcément dans les régions polaires, mais en Himalaya. Oui, je me suis fait peur en allant au pôle Nord, parce que je suis passé une fois à travers la glace.
Ah, vous avez connu cette chute ?
J'ai connu
mais
ça.
Mais vous avez réussi à vous rattraper alors ?
Oui, parce que j'ai été conditionné. Je savais que c'était le grand danger. J'étais conditionné. Vous savez, c'est la jeune glace de mer, elle est flexible. Donc vous avancez sur une zone et c'est flexible comme ça. Et là, vous dites, je fais demi-tour, je continue, j'y vais à un moment donné. Et je savais, j'étais conditionné. Je savais que si ça s'effondrait sous moi, il fallait se coucher.
Se coucher ?
Se coucher de manière à être sur moins de pression sur la glace jeune comme ça. Et j'ai mal dormi la nuit après, ouais.
Ah oui.
Oh, j'imagine.
Oui, parce que j'ai
donc petite nature, Jean-Louis Etienne, hein, dis donc. Eva Rock.
Vous parlez de l'Himalaya. On n'a pas une très bonne nouvelle. On vient d'apprendre que 2/3 des glaciers de l'Himalaya pourraient fondre d'ici 2100. Ça déséquilibrerait évidemment le niveau des fleuves en aval. Est-ce que ce phénomène de réchauffement climatique, vous l'avez constaté au cours de vos expéditions, et est-ce que ça vous inquiète?
C'est une réalité. Si vous voulez, le réchauffement climatique, on en a fait un sujet d'appréciation. Tu trouves, toi, que ça se réchauffe, etc. On a perdu du temps. Ça ne se perçoit pas, ça se mesure. C'est une mesure scientifique. Un degré de réchauffement en un siècle, ça ne se perçoit pas. On sait que la Terre a sa vie propre. On sait qu'elle a été chaude, froide, ce qu'on appelle les périodes glaciaires, interglaciaires. On sait aussi qu'on va vers du réchauffement naturel, lent, mais sur des milliers d'années. Et les glaces nous apprennent, si vous voulez, dans cette histoire, qu'il y a depuis 150 ans, il y a une accélération verticale de la température, de la teneur en gaz carbonique, de la teneur en méthane. C'est ça la signature de l'homme.
Alors justement, est-ce que vous parvenez à rester optimiste quand on voit qu'il y a eu des années, des belles années pour l'écologie, entre guillemets, on pense aux années Obama, on pense à l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement. Aujourd'hui, quand on voit l'expérience avortée de Nicolas Hulot qui finalement s'est retiré, quand on voit Donald Trump qui tous les trois jours nous sort une absurdité sur le réchauffement climatique, est-ce que vous réussissez à rester optimiste?
Il faut être optimiste pour mettre en œuvre les choses, si vous voulez. Si on dit, c'est pessimiste, c'est foutu, il ne se passera rien. Non, là, c'est grave.
Vous vous engagez pour le climat. Est-ce que ce n'est pas en politique qu'on a le plus de chances de changer le climat? Est-ce que, il paraît que François Mitterrand, vous avez pensé à vous pour un poste ministériel et que vous avez
c'est
décliné.
Vrai.
C'est vrai. Est-ce que vous avez, et l'expérience de Nicolas Hulot, quelque part, vous confirme dans votre
refus
de vous engager politiquement?
Il faut faire de la pédagogie et ça prend du temps, si vous voulez. Déjà, là où il faut agir, c'est faire en sorte que les investisseurs qui sont des banques que nous connaissons, lève le pied sur ses investissements sur le charbon. Vous voyez, ça c'est de la politique économique, si vous voulez. Et puis autre chose, c'est que on est chacun individuellement responsable. Il faut que chacun soit efficace sur sa zone d'influence.
Jean-Louis Etienne, un mot pour finir. Vous allez vous engager dans une nouvelle aventure scientifique, une de plus, PolarPod. Depuis 8 ans, vous travaillez sur ce projet incroyable. En quoi ça consiste ?
On va étudier la capacité de l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là, on change de pôle, on va au pôle sud. C'est un immense continent qui est entouré d'un océan qui fait le tour. Les 50e hurlants de nos marins, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 dont on parle depuis tout à l'heure, responsable du réchauffement climatique, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Et cette immensité d'eau froide qui fait 22 000 km de circonférence, on en connaît une partie, mais toutes les publications scientifiques se terminent. On a besoin de mesures in situ sur une longue durée. Et donc on va construire le PolarPod, qui est un navire vertical, un grand flotteur, qui va être très stable dans la grosse mer, parce que là-bas ça souffle, et qui va permettre, entre autres, de mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan.
Vous partez quand ?
En octobre 2021, il faut le construire fin de
l'année. Il faut le construire
un petit peu. Et vous serez de la partie ? Vous allez
Ça va durer 2 ans, mais on sera relevé tous les 2 mois, donc oui, j'en ferai une partie.
J'espère que vous le ferez dans les zones calmes, hein, et pas dans les 40e
régime. N'ayez pas peur pour Jean-Louis. Moi, je ne me fais aucun souci pour Jean-Louis. Je crois qu'il sait ce qu'il fait.
On a des bons marins.
Il sait ce qu'il fait. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. On rappelle que vous serez donc présent ce soir à l'avant-première du film Arctique à Paris, ce film réalisé par Joe Peña qui sort demain en salle partout en France. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci pour votre invitation.
Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le thermomètre remonte un peu.
Il est 5h29, Mathieu Noël.
Avant le journal de 6h30, un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Et décidément, vous ne faites pas beaucoup d'efforts aujourd'hui, encore de la grisaille.
Oui, c'est vrai, sur tout l'ouest et puis une grande partie centre du pays. On aura quand même un petit peu de soleil sur l'est, enfin même un petit peu beaucoup. De larges éclaircies de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée et en Corse. Soleil qui va bien briller surtout cet après-midi. Quant aux températures, elles remontent déjà un petit peu ce matin. Et cet après-midi, les maximales iront de 6 à 13 degrés sur la moitié nord avec 8 à Paris, 11 à 14 pour la moitié sud, jusqu'à 14 pour Ajaccio. On aura aussi un petit peu de pluie sur les côtes atlantiques, de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, et Debout les copains, c'est avant tout une équipe. Une équipe de professionnels menée par un journaliste consciencieux, scrupuleux et qui jamais, contrairement aux infâmes rumeurs qui circulent, ne se permettrait de manger un cookie pendant la diffusion d'un magnéto mettant en péril la suite de sa matinale. Ça n'aurait aucun sens, les gens racontent vraiment n'importe quoi. Oh merde, je vais manger. Merde, j'ai un truc dans la bouche. Vite, les bars, fais la suite.
Pourquoi ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais il a la bouche pleine. Il a la bouche pleine. Tu dis merci Thierry Léger, je donne l'heure.
Oui, bon, mais ça m'arrive parfois. Passons rapidement au journal.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
C'est un immeuble de 8 étages en plein Paris. Il a pris feu cette nuit. Le bilan provisoire est lourd. 7 morts, un blessé en urgence absolue. Les pompiers sont toujours en train de fouiller les décombres. Nous sommes le 5 février, la CGT organise une grève nationale de 24 heures. Les gilets jaunes sont aussi de la partie. Est-ce le début d'une convergence des luttes ? Tout dépendra du niveau de mobilisation. Et puis le marathonien Emmanuel Macron a une nouvelle fois débattu pendant des heures, cette fois avec les élus de banlieue. Il a annoncé un grand plan en faveur des petites associations de quartier.
Europe 1.
Le feu. Dans la nuit, un immeuble de 8 étages dans le 16e arrondissement de Paris, un incendie. Le bilan provisoire, 7 morts, un blessé en urgence absolue, 30 blessés légers. 250 pompiers sur place, dont 6 sont parmi les blessés légers. Le feu est à cette heure maîtrisé. Les pompiers ont effectué une cinquantaine de sauvetages, mais la reconnaissance est toujours en cours dans l'immeuble. Écoutez Clément Cognon, le porte-parole des pompiers.
On constate une scène d'une incroyable violence avec un immeuble qui est entièrement embrasé. Notamment la partie haute en particulier. Beaucoup de gens qui se manifestent aux fenêtres. Et d'emblée, les secours font l'effort sur les sauvetages. Ils établissent des échelles en façade pour aller secourir les gens au plus près. Ils prolongent les échelles avec ce qu'on appelle des échelles accrochées. Ce sont des échelles que l'on suspend au balcon. Et ces échelles permettent d'accéder de niveau en niveau pour aller chercher les gens. Une trentaine de personnes seront évacuées ainsi. À d'autres sapeurs-pompiers sur les échelles, dans une situation que vous imaginez particulièrement périlleuse. Ce qui peut expliquer la violence, c'est bien sûr la présence de nombreux matériaux au sein de cet immeuble d'habitation et le fait que des portes ont été ouvertes. Et par propagation, le feu a, on va dire, gagné les différents appartements, la cage d'escalier et a embrasé tout l'immeuble. Les deux immeubles adjacents ont été évacués par mesure de sauvegarde.
Clément Cognon, le porte-parole des pompiers au micro Europe 1 d'Aude Vernuccio. Est-ce le début de la convergence? La CGT organise aujourd'hui une grève nationale à ses côtés solidaires, certains syndicats Force ouvrière, la France insoumise, mais aussi des gilets jaunes, notamment le leader controversé Éric Drouet. Et c'est bien ce mélange qui pose question. Olivier Samin, bonjour. En fait, depuis le début, la CGT peine à trouver sa place dans un contexte de crise sociale qui, Olivier, en d'autres temps, lui aurait pleinement profité.
Et oui, reprendre la main de la contestation sociale. Voilà ce que tente la CGT avec cette journée. Après 2 mois et demi où elle est apparue totalement inaudible. C'est pas faute pourtant d'avoir essayé, mais à chaque fois, elle est tombée à côté de la plaque. Faut dire que la CGT est mal à l'aise face aux gilets jaunes. D'un côté, admirative de leur force de percussion sur la durée. De l'autre, méfiante à l'égard des porte-paroles du mouvement dont on ne sait pas ce qu'ils ont réellement dans la tête. Pour tenter de reprendre la main, la CGT a donc puisé dans sa bonne vieille boîte à outils. Un appel à la grève interprofessionnelle avec des manifs un peu partout en France, un jour de semaine, pour que ça impacte les entreprises. Sauf que c'est acquis tout double. Si la mobilisation reste au niveau des précédentes journées, qui avaient fait flop, faut le dire, la CGT aura grillé l'une de ses dernières cartouches et aura du mal, derrière, à peser sur la scène sociale. En réalité, c'est pas ça qui préoccupe le plus Philippe Martinez. Dans 3 mois, il a son congrès à Dijon. Ses bastions les plus radicaux l'attendent au tournant. Leur donner des gages, voilà son obsession.
Merci à vous Olivier Samin pour cet éclairage. Le degré de mobilisation sera bien sûr observé aujourd'hui. Sachez que quelques 200 à 300 manifestants ont bloqué cette nuit l'une des entrées du marché international de Rungis en Île-de-France. Certains des protestataires portaient le gilet jaune. L'Assemblée nationale adoptera aujourd'hui la proposition de loi anti-casseurs. Le texte divise la majorité. Une trentaine de députés marcheurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne le voteraient pas. Emmanuel Macron a débattu pour la 5e fois hier. Après le monde rural, le président était en banlieue, à Évry-Courcouronnes, en banlieue parisienne. 6 heures d'échange avec des maires et des responsables associatifs. Le président a esquissé un mea culpa sur la suppression des emplois aidés et a annoncé un grand plan pour aider les petites associations des quartiers.
À suivre dans ce journal, les 8e de finale de la Coupe de France avec peut-être le grand retour d'un club qui s'était effondré, le SC Bastia. Les Corses veulent revenir en pleine lumière. À tout de suite.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, c'est aujourd'hui la journée nationale de prévention du suicide.
Oui, avec ce chiffre sur lequel on s'arrête forcément. Selon une étude de l'Agence Santé Publique France, 7% des adultes en France ont tenté de se suicider au cours de leur vie. Alors intéressons-nous à un dispositif de prévention efficace. Cela s'appelle le réseau Vigilance, créé au CHU de Lille il y a 4 ans. C'est une équipe de psychiatres, d'infirmières, de psychologues qui assure un suivi des personnes qui ont pu tenter de se suicider. Reportage Lionel Gougelot.
Garder le contact par téléphone quelques jours après la sortie d'hôpital, c'est en assurant un suivi de la personne qui a tenté de mettre fin à ses jours que l'on prévient le mieux les récidives, selon Christophe Desbiens, psychiatre coordonnateur du centre vigilance du CHU de Lille.
Évidemment, il y a une évaluation clinique sur les idées suicidaires, sur le moral, pour savoir où en est le sujet à ce moment-là. Et c'est le deuxième sujet de conversation qui est d'inciter les gens à aller aux soins quand ils vont mal. Ça provoque un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que je ne suis pas un numéro qui est passé dans un service d'urgence. La personnalisation, je pense que ça, c'est un élément majeur.
Une prévention du suicide par la parole et l'échange, mais aussi par la sensibilisation de tous les professionnels de santé dans l'entourage du patient. Élise Cléva, infirmière vigilanceuse, comme on dit ici.
On sensibilise aussi beaucoup l'entourage, donc aussi bien la famille, mais aussi les parents, parce qu'on s'occupe de mineurs et ça, c'est pas toujours évident de pouvoir rassurer les parents sur ce qu'est le risque suicidaire et comment le prévenir aussi, parce qu'il faut pas avoir peur d'en parler. C'est pas ça qui va déclencher un geste suicidaire si on en parle, et c'est important de pouvoir transmettre ça.
Un contact qui permet parfois d'intervenir à temps en cas de nouveau passage à l'acte. Depuis sa création, les responsables du dispositif Vigilance estiment qu'environ 40 vies par an ont été sauvées dans le Nord-Pas-de-Calais.
Reportage signé Lionel Gougelot. Le pape François est à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. C'est la première fois qu'un souverain pontife foule le sol de la péninsule arabique. Il s'est élevé avec force contre toute forme de discrimination, de violence et de guerre devant un parterre de dignitaires religieux. Il célébrera aujourd'hui une messe géante à Abu Dhabi.
Vous nous aviez promis, David, une belle histoire de foot.
Oui, une belle histoire,
parler
peut-être.
L'OM, probablement.
Non, ah bah ah non, non, pas ah du bon, tout. Ouais, ouais. Désolé de vous décevoir, mais une fois de plus, ce n'est pas l'OM. Oui, une belle histoire, peut-être. Cela dépendra du résultat de ce soir. Le Sporting Club de Bastia a connu l'enfer depuis un an et demi. Les Corses, qui étaient habitués à la Ligue 1, se sont effondrés, vous vous en souvenez sans doute, et jouent aujourd'hui en National 3, c'est la 5e division. Ils affronteront ce soir en 8e de finale de la Coupe de France les Normands de Caen, qui eux, évolue en Ligue 1, l'occasion pour Bastia de retrouver un peu de lumière. Reportage en Corse, signé Frédéric Michel.
Il faut continuer de rêver, c'est le cri du cœur des supporters du Sporting. Ce 8e de finale de Coupe de France est un peu leur récompense après la descente en enfer de leur club.
On n'a pas tout saisi, tout compris. C'est une grande souffrance pour nous et de nous retrouver là, en 8e de finale, c'est notre place.
Là, ce qu'on vit actuellement, alors qu'on est à l'E3, c'est fabuleux. Ça fait revivre un peu le club, on va dire. Mais maintenant, il faut se mobiliser, il faut qu'il y ait du monde au stade maintenant à chaque match.
Dirigeants, joueurs et supporters n'ont qu'une ambition, reconstruire le club. Claude Ferrandi, le président du Sporting.
C'est évidemment de retrouver le monde professionnel parce que c'est, on pense que c'est là que le Sporting a sa place, mais cela dit, il faut y aller avec méthode. Priorité, clairement, c'est le championnat. On a effectivement 9 points d'avance aujourd'hui, la coupe est un bonus.
Premier de son groupe, Bastia savoure son parcours. Stéphane Rossi, l'entraîneur du SCB.
Moi, je me rappelle de la saison dernière, cette équipe-là était mal en point, où il n'y avait pas de joueurs ou très peu de joueurs. Et arriver un an et demi après à retrouver une équipe de Ligue 1 Fouriane, pour nous, c'est déjà une première victoire.
Pas question donc de brûler les étapes. Bastia vise avant tout la remontée en National 1 dans les 2 ans.
Frédéric Michel pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David qui, on le sait, quoique marié et père de famille, a néanmoins un petit faible pour sa collègue lusitanienne, la douce Céline Dacosta. Et hélas, cette attirance déjà forte n'a été que renforcée hier par cette révélation de Céline durant la coupure pub. On savait qu'elle avait un sacré CV, mais à ce point-là, ça force l'admiration.
Retrouvez-nous sur Acadomia.fr.
C'était moi la voix d'Acadomia pendant un moment.
C'est pas vrai.
Si.
Quel parcours.
De la pub Acadomia à la prématinale d'Europe. Ah ouais. Mais où s'arrêtera la fulgurante carrière de Céline, qui est présentatrice du loto. Oh, c'est dégueulasse. Céline, les écoutons
pas. Si je pouvais gagner au loto, ce serait pas plus mal.
Ah, c'est beau. Hein,
bonne vanne.
Ah oui, bonne vanne. Excellente vanne.
Parce que je me rends pas compte.
Mais
c'est tellement naturel.
Mais peut-être qu'une carrière vous attend dans le stand-up.
Peut-être.
C'est possible.
Là, de réentendre ça, je me dis, c'était
vous trouvez bon.
Ouais.
Ben vous avez raison.
Non,
mais vous avez raison.
Céline.
La fausse modestie, c'est
très bien.
C'est dépassé. Bon, je vais vous laisser. Prenez une chambre. On passe à la météo.
Allez, avec du soleil encore pour l'est du pays. On commence par les bonnes nouvelles. Il brillera largement de l'Alsace, Bourgogne, jusqu'au pourtour méditerranéen et en Corse. Ailleurs, c'est la grisaille qui domine avec des averses de la Bretagne à l'Aquitaine toute la journée. Encore un petit peu de neige ce matin sur le relief pyrénéen, mais c'est le soleil qui va revenir sur ses sommets cet après-midi. Les températures sont plus douces. Ça grimpe un petit peu. On est dans les normes de saison. La moyenne cet après-midi ira de 6 à 14 degrés du nord au sud. Il en fera 8 à Paris et 14 à Nice.
Merci Céline.
5h07, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses allongées d'un trait de fantaisie à suivre. Partout où il passe, les fake news trépassent. Ouais, c'est le nouveau slogan que j'ai trouvé pour vous. Les trois fantastiques, politique, économie, médias. Les trois fantastiques arrivent au programme ce matin, la chute historique des ventes de smartphones et le PS qui s'organise en vue des Européens.
Et les 6h41. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
7 morts, 1 blessé en urgence absolue et 30 blessés légers, dont 6 pompiers. C'est le bilan toujours provisoire d'un incendie qui s'est déclenché cette nuit dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Le feu est désormais maîtrisé, les causes du sinistre ne sont pas encore connues. La CGT appelle aujourd'hui à une grève nationale. Des manifestations sont prévues partout dans le pays pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale. Des gilets jaunes, notamment le leader Éric Drouet, se joignent au mouvement. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump prononcera son discours sur l'état de l'Union aujourd'hui. Après un shutdown qui aura duré 35 jours, le président s'exprimera devant un congrès en grande partie hostile, avec en ligne de mire la prochaine présidentielle.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
La France retient son souffle, on les attendait fébrilement, les voilà. Céline, accueillons sans flagornerie excessive les trois fantastiques.
Ah, oh, génial,
oui.
Bravo.
Non, sans flagornerie excessive, Céline, même si c'est vrai que Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie et Eva Rock pour les médias nous épatent chaque matin, et ce, bien au-delà de leur domaine de compétences respectives. Axel et Eva nous l'ont encore prouvé hier en faisant une incursion très remarquée sur le terrain de l'humour. J'en ai encore mal aux côtes.
En revanche, il fait hyper froid, hein, je vous le dis. Si je vois un manchot passer devant moi, et il fait un froid de canard.
Coin, coin.
Non, comment c'était la blague?
Ah ouais, gnoc gnoc.
Ah, oh, c'est bon de rire.
C'est les canards.
Mais commençons plutôt par la politique. Revenons à votre cœur de métier. On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Le feuilleton des listes pour les élections européennes se poursuit. Après l'envers du décor hier de la liste La République En Marche, aujourd'hui vous nous emmenez dans les coulisses de la gauche et du PS avec une question. Olivier Faure sera-t-il obligé de prendre lui-même la liste, la tête de liste, faute de combattants?
À l'Europe-PS, on vérifie chaque jour ce principe. L'union est un combat. Effectivement, une réunion prévue houleuse la semaine dernière du bureau national du PS eh bien, a tenu ses promesses. On n'est plus, certes, rue de Solferino, on est rue Molière à Ivry maintenant, à Ivry-sur-Seine. Et Olivier Faure, médecin malgré lui, en tout cas, lui, n'est pas avare de ses efforts pour pouvoir donc réaliser toujours l'union. Il a confirmé sa stratégie devant les cadres du parti, les rendez-vous avec Place Publique, hein, ce mouvement de la gauche citoyenne qui s'est créé. Et le PS, selon lui, se déroule bien. D'ailleurs, ce devrait être la base du rassemblement. Mais du côté d'Olivier Faure, on résiste, on insiste. Donner la tête de liste à une autre personne que lui, eh bien, ça sera vraiment la preuve que l'union est réussie. La pression s'accroît d'ailleurs sur le mouvement de génération de Benoît Hamon, réfractaire donc à venir rejoindre une liste d'union. Des membres de génération veulent finalement rejoindre l'union de la gauche. Lui, il fait des petits pas, Benoît Hamon, des interviews un petit peu à lecture subliminale dans le télégramme de Brest pour dire des conditions, mais peut-être on verra. Yannick Jadot reste le plus intransigeant. Pas question, lui, de rejoindre l'union de la gauche. Il veut se compter en fond, donc pour les prochaines élections en vue des prochaines municipales. Et du côté de Place Publique, eh bien, on découvre l'ambition. Raphaël Glucksmann voudrait être, bien entendu, la tête de liste, mais on lui dit qu'il est beaucoup trop parisien, alors qu'aujourd'hui, eh bien, l'enjeu avec les Gilets jaunes et les territoires à reconquérir n'est pas vraiment d'être, de représenter la capitale.
Donc la gauche, à cette heure, n'est toujours pas en capacité d'afficher son union. La campagne va être difficile.
Alors, on l'a compris, hein, tout celui qui passe à proximité du siège du PS sur le trottoir, il peut devenir une tête de liste, hein, parce que pour tout simplement rester à la tête du PS, eh bien, Olivier Faure doit rester en retrait. Il a bien identifié l'embuscade qui se prépare de moins en moins discrètement, il faut le dire, hein, par des conjurés qui escomptent un mauvais score pour le débarquer. Donc Faure se bat, il ne renonce pas à obliger Jadot à venir à une liste d'union, et d'ailleurs il prend également contact avec des écologistes qui donc sont un peu en disgrâce avec le maire avec Yannick Jadot, comme le maire de Grenoble par exemple. Quant à Benoît Hamon, ben, il rappelle sans arrêt, avec beaucoup de charité, qu'il est pour l'instant crédité de 2% dans les sondages, ce qui fait un peu difficile pour l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Bref, on a compris qu'en cette veille d'élections européennes, une autre affiche donc peut-être affichée donc rue Molière, peut-être la pièce de la gauche la plus belle du monde.
Merci beaucoup Mickaël Darmon, vous êtes dur, mais vous êtes juste. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Chute historique des ventes de smartphones dans le monde. Il y en a quand même 1,4 milliard qui se vendent.
Oui, mais les ventes sont en baisse. Et c'est même, selon le cabinet IDC, qui compile donc les ventes mondiales, la pire année jamais enregistrée, 2018, avec des ventes en baisse de 4,1%. Et alors pourquoi les ventes baissent? Eh bien parce que le marché du téléphone portable est devenu un marché de renouvellement. Et puis, il y a surtout moins d'innovation. Franchement, Mathieu, mon téléphone iPhone 5, il est peut-être un peu vieux, mais quelle différence fondamentale avec le tout dernier iPhone?
Non, vous avez raison.
À part le prix, oui. Parce que la seule innovation maintenant dans le mobile, c'est le prix.
Vous n'avez pas la détection faciale qui est très pratique, surtout.
Oui, voilà, c'est le gadget du gadget.
Oui, non,
quoi. Donc, voilà, à part le prix qui dépasse les 1000 euros. Donc, vous voyez, le marché du téléphone portable est moins innovant, donc on éprouve moins le besoin d'en changer et donc d'en acheter.
Oui, mais l'arrivée de la 5G, Axel, ça va dynamiser le marché, non? Il va falloir s'équiper avec de nouveaux téléphones compatibles 5G.
Alors oui et non. Oui, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui les téléphones portables sont 4G et donc ils ne sont pas compatibles 5G, donc voilà. Mais non, parce que quelle est l'essence de la 5G? Quelle est la philosophie de la 5G?
Je ne savais pas que la 5G avait une philosophie.
Si, c'est l'internet des objets. En clair, aujourd'hui, internet est uniquement dans le téléphone portable, l'intelligence est uniquement dans le téléphone portable. Demain, ce sera le règne des objets connectés. La voiture sera connectée. Votre balance dans votre salle de bain sera connectée.
Peur.
Vous dira, Axel, tu as grossi. La serrure pour rentrer chez vous sera connectée. La brosse à dents sera connectée en disant, brosse-toi les dents plus longtemps, etc. L'intelligence va sortir du téléphone portable et va aller dans tous les objets. Bref, le téléphone portable ne sera plus la porte exclusive pour aller vers Internet. Internet sera partout. Et de ce point de vue, eh bien, la position dominante du téléphone portable va s'estomper. Et figurez-vous, Mathieu, ça commence. Internet est aujourd'hui beaucoup. Regardez le succès des assistants vocaux de Alexa. Et Alexa, qui fabrique Alexa ? c'est pas un fabricant de téléphone portable,
et non.
C'est Amazon. Et voilà.
Merci Axel pour cet aperçu du futur. Eva Rock.
Je vous conseille un documentaire sur France 5 ce soir à 20h55 qui s'appelle « Inceste, que justice soit faite ». Alors il y a des chiffres qui effraient. 4 millions de Français seraient concernés par l'inceste, un tabou dans notre société qui pousse souvent les victimes à ne pas porter plainte. Un seul 10% le font et malheureusement moins de 2% des affaires aboutissent à une condamnation. C'est la réalisatrice Audrey Gloagen qui donne la parole à plusieurs filles et femmes victimes des agissements d'un membre de la famille, comme Emeline, 12 ans, qui a eu le courage de dénoncer les actes de son grand-père.
Je me souviens juste que ça a commencé à mes 4 ans et que mon grand-père a commencé à faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire sur un enfant. Quand je suis passée à la barre et qu'il m'avait demandé pardon, j'ai fait « j'en veux pas de tes excuses, tu peux te les garder. Tes excuses pour moi, c'est de la poussière à côté de moi, c'est rien. »
Alors l'homme a été condamné à 8 ans de prison ferme. Emeline, elle gardera ses blessures à vie. Une procédure judiciaire, vous le comprendrez, est souvent utile, voire nécessaire dans le processus de réparation, mais c'est aussi un long parcours du combattant. Maé, elle a porté plainte contre un homme de la famille pour des viols sur sa fille, une décision lourde de conséquences.
C'est très très facile de rester dans le déni. On met un petit couvercle dessus, personne ne nous croit, on fait pas d'embrouille, on gêne personne, on choque pas la famille. Parce que c'est ça aussi qui est très dur, c'est qu'il y a toujours cette culpabilité de dire « est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai raison de faire ça ? Est-ce que je suis pas méchante, justement, de dire la vérité et que ça va nuire à leur réputation et tout ça ?» Même quand moi j'ai peur, que je doute, que je suis terrorisée, que je me dis « j'y arriverai jamais, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est épuisant, aidez-moi », ma fille, elle me montre qu'il faut continuer. Il faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Alors il y a dans ce documentaire une forme de délicatesse rare, une façon d'aborder ce sujet si difficile avec attention et sans jugement. Alors à travers les témoignages, tous différents, le téléspectateur comprend aussi la quasi-impuissance de la justice à gérer ses affaires, où la parole de l'un l'emporte toujours sur l'autre, où l'absence fréquente de preuves complexifie les dossiers. Sachez par ailleurs qu'Olivier Delacroix consacrera son émission à ce sujet de 15h à 16h sur Europe 1.
Merci beaucoup Eva Rock pour ce choix télé. Merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Europe 1. Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains s'acheminent tranquillement vers son terme. Néanmoins, est-ce une raison pour se laisser aller à de funestes et mélancoliques pensées ? Non, car vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos alias l'aventurier de la relance perdue. La relance, ou cette petite phrase que nous prépare le journaliste pour rendre sa chronique plus fluide. Sauf évidemment quand on s'en mêle dans ses feuilles.
Puisqu'on ne peut pas taxer les bénéfices, eh bien on va taxer le chiffre d'affaires.
Merci beaucoup Axel de Tarlet. On va aussi parler, pardonnez-moi j'ai perdu, je devais vous faire une relance mais je l'ai perdue.
A tout de suite Indiana.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à sa fin, mais voici les amis, le moment que vous attendez tous. Je vous le donne en mille, Nikos.
La météo marine de Mykonos.
Le débrief de votre matinale d'hier. Et quelle matinale, Nikos. Pour fêter votre centième, vous étiez en public. Un public qui n'était pas sans rappeler les fans les plus extrêmes d'Iron Maiden ou de AC/DC lors d'un Hellfest un peu chaud. Un service d'ordre particulièrement musclé avait d'ailleurs été prévu pour canaliser la folie de ce public de Gueudin. Avec tous les rentiers et les seigneurs du 16e et d'ici les Moulineaux qui sont des fans assez no limites, ça pouvait dégénérer en pogo à tout moment. Il fallait se montrer prudent. Et d'ailleurs, quoi qu'habitué à des publics en délire, sur The Voice ou l'Energy Music Award, Nikos a été, on l'a senti, épaté par la ferveur inédite de ce public.
Voilà pour le programme. Est-ce que vous êtes prêts ? Magnifique, ça fait plaisir.
Visiblement déstabilisé par l'engouement du public, Nikos s'est alors un peu emmêlé, laissant planer un doute sur le fait que sa matinale était d'habitude en direct ou pas.
Vous savez quoi ? Et si on la faisait tous les jours en direct ? Avec vous, j'entends. On est en direct tous les jours, mais on n'est pas en direct tous les jours avec les auditeurs ou certains auditeurs.
Oui, bon, on a compris, Nikos, t'en mêle pas. Les gens, en tout cas, étaient venus de très loin, on peut le dire, du monde entier pour assister à cette centième. Ouais. Ce qu'a confirmé ce petit sondage improvisé par Nikos en antenne durant une coupure pub.
Il y a des nouveaux. Qui est venu de son propre chef, comme ça, qui tweet pas ? Monsieur, vous venez d'où ? Paris ? Vous habitez en face ? Ah ouais, ouais.
Et oui, le type a vu la lumière.
Je faisais une blague.
Il a senti l'odeur des croissants. Il est dit, il s'est dit, tiens, un petit déj gratos, il est venu. C'est ça les vrais fans. Petit bémol, petit regret concernant cette mémorable centième, le fait que Laurent Cabrol n'était pas au mieux de sa forme hier. Une petite grippette, nous expliquait-il d'emblée à 6h57, alors qu'on lui demandait pourquoi il n'était pas physiquement présent là, en studio.
J'ai la même aujourd'hui.
Au grand dam de ses nombreux fans qui étaient venus avec des photos de Lolo siglées Antenne 2 dans l'espoir d'une dédicace. Une question surgissait immédiatement. Déjà que le Lolo, au sommet de sa forme, peut parfois partir dans des tripes assez perchées, que devait-on s'attendre avec un Lolo légèrement grippé? Ce poème, improvisé durant le premier point météo, devait répondre à notre question.
100 fois sur le métier, j'ai remis mon ouvrage auprès de vous, mon cher Nikos, que j'ai aimé cet adage. Et franchement, ce fut quand même une centaine de jours sans nuages pour que ça dure.
C'est joli.
Le Verlaine du Cumulonimbus avait encore frappé. Mais le point culminant de cette émission fut indéniablement l'aveu terrible et involontaire de Nikos Aliagas durant la chronique innovation d'Anis Mbida. Espérons que Madame Aliagas n'écoutait pas.
Anis Mbida, vous le connaissez les amis?
Il est là.
Eh oui, il vient avec son fan club. C'est le monsieur innovation de la matinale. On parle de quoi ce matin, Anis?
Allez, c'est Big Brother qui arrive dans nos rues parce qu'on va installer des micros sur les panneaux de signalisation et sur les réverbères.
Alors si vous vouliez discuter avec votre maîtresse, c'est raté. Non mais je donne un exemple un peu extrême, voilà.
Oui, non parce que Nikos connaît un ami qui est dans cette situation, c'est pour ça qu'il a pensé. Bref, je vous laisse enchaîner Nikos. Bonne matinale mes amis.
Merci, patate chaude.
Mathieu Noël pour bien commencer la journée avec Eva Rock et Céline Dacosta.
Bonjour,
merci
Nicolas.
Les amis. Bon
merci.
Repos et à demain.
Bonne journée.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.